a un chien, il va sur un chien. Et lorsqu'il s'agit d'animaux de compagnie, on sait qu'il y avait même des tombes et des épitaphes qui étaient consacrées aux chiens, puisque même le poète Martial a rédigé l'épitaphe d'un chien, et qu'on a même une tombe qu'on a retrouvée à Rome, qui était dédiée avec une inscription à une chienne qui venait de Gaule en plus. Alors on n'a pas vraiment, on n'a pas ça à Lyon, on n'a pas d'épitaphe, on n'a pas retrouvé en tout cas d'épitaphe avec l'inscription dédiée à un chien, mais on a retrouvé plusieurs tombes où on voit qu'il y a une volonté de traiter l'animal exactement comme un humain, puisqu'il est inhumé avec un vase qui a été d'ailleurs mutilé volontairement. Alors, au début, certains pensaient que c'était la gamelle du chien qu'il avait accompagné dans son dernier voyage, mais en fait, non, c'est un vase à vin qui a été volontairement décapité. Donc, ça souligne vraiment l'identité du traitement de l'animal et de l'humain.
Un des nombreux exemples de la meilleure appréhension du monde romain des vivants à travers les tombes. On est devant des exemples d'inhumation.
Alors en fait, comme ce sont des tombes d'enfants, parce qu'il y a une constante à l'époque romaine, c'est que les enfants en bas âge sont toujours inhumés. La loi religieuse disant qu'on ne devait pas incinérer des êtres dont les dents n'ont pas encore poussé. On voit qu'ils sont traités exactement comme des êtres à part entière, puisqu'on retrouve les mêmes objets, parfois en miniature, qui supposent les mêmes gestes dans leur tombe. On voit ici cette tombe que j'ai trouvée près de Clermont-Ferrand, hein, qui est la seule reconstitution qui concerne Pagnon, où on a un enfant qui a été déposé, dont le corps a été déposé accompagné de très nombreuses céramiques et deux offrandes alimentaires qui sont un jambon de porc et une épaule de mouton. Et puis à côté, l'autre tombe, en fait, trouvée à Lyon, montre l'illustration d'une pratique qui est très courante dans la Gaule du Sud, en particulier pour le Bas-Empire, c'est la réutilisation d'une amphore comme cercueil en terre cuite, donc pour les nouveau-nés. Et qui pouvait être couvert ou pas d'ailleurs d'une protection en bois. Très souvent, il n'y a aucune protection, ou du moins, elle n'est pas évidente.
On sait que le musée a une tradition, un grand fonds épigraphique, un des plus grands fonds épigraphiques de France. Est-ce que ça a eu une influence sur la composition de l'exposition, sur l'insistance sur certaines sources?
On a quand même voulu qu'elle soit présente pour rappeler que, malgré tout, il y a notamment ce phénomène qui est propre à la civilisation romaine, en tout cas aux civilisations où il y a une coexistence entre les morts et les vivants, ce sont les épitaphes qui s'adressent aux passants. Donc on en a mis quelques-unes. Donc comme on disait, il y a beaucoup de tombes, en particulier les plus monumentales, les plus riches, qui sont au bord des voies. Ça fait que dès qu'on sortait de chez soi, on croisait des tombes, et du coup il y a une proximité qui se fait entre le défunt et le patient, et on a un certain nombre d'épitaphes. Alors il y a des livres qui ont fait publier des florilèges d'épitaphes à travers le monde romain qui s'adressent directement aux passants, avec cette teneur assez souvent soit philosophique, soit au contraire un peu résignée, du genre ben, moi je suis mort, où je suis c'est très triste, toi qui es encore vivant, profites-en et pense à moi. Ou alors des formules parfois humoristiques, passant, tu peux courir, mais là où j'étais, j'y étais, là où tu es, j'y étais, là où je suis, tu y viendras. Voilà. Et puis, des choses un peu plus émouvantes, en fait, c'est qu'on demande aux passants de lire l'épitaphe et le défunt ressuscite le temps de cette lecture. Voilà, je revis à travers tes paroles. Et puis des choses qu'on n'a pas à Lyon, mais qu'on a bien attestées ailleurs, on demande aux passants de faire une libation de vin, et c'est ce rite de la libation, de verser du vin sur les restes du défunt, qu'on voit à travers les monuments. Vous avez des autels qui sont volontairement perforés pour qu'on puisse verser du vin, et le vin va couler sur l'urne funéraire, et même des urnes funéraires toutes simples, comme celles qu'on a constituées, qui étaient surmontées d'un conduit et qui permettaient de verser directement du vin sur les ossements calcinés du défunt.
Alors, il y a de nombreux rites autour de la mort d'un personnage de la famille dans la domus elle-même. Est-ce que la religion romaine admettait une existence post-mortem, justement?
Alors ça, c'est un point très délicat. Quelle était la vision? Comment percevait-on l'au-delà, si on en percevait un? Ce que peut montrer l'archéologie, ce que l'on sait quand même à travers l'épigraphie, c'est que, de toute façon, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas... toutes les manifestations du culte funéraire relèvent plutôt du domaine privé à l'époque romaine. Pour essayer de donner une image à défaut d'une explication, dans le cortège funèbre, on ne va pas trouver de membres du clergé. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas une divinité spéciale qui serait affectée aux enterrements. Et c'est même le contraire, puisqu'en fait, on sait par les textes qu'on demandait au cortège funèbre de se tenir à l'écart des sanctuaires, qu'il était plutôt de mauvais augure d'en croiser un, et même les esprits les plus conservateurs conseillaient, auraient voulu que les cortèges funèbres se déroulent pendant la nuit. Et on explique comme ça le fait qu'il y ait des porteurs de torches même en plein jour. Il y a un côté familial assez détaché de la religion, c'est quelque chose de différent. Il faut savoir aussi que, à la différence de la religion chrétienne, il n'y a pas... Le culte à un certain nombre de divinités gréco-romaines ne s'applique pas de préceptes moraux pour régler sa vie et qui aurait une influence après sur un au-delà. Maintenant, évidemment, il serait téméraire de dire que pour les Romains, il n'y avait rien après la mort. L'archéologie montre tout le contraire. Il y a ce désir du souvenir qui passe par le repas partagé. Après, désir de souvenir n'est pas forcément éternité. Il semble bien que l'immortalité à l'époque romaine soit quand même réservée aux dieux. Alors bien sûr, on trouvera toujours quelques textes parmi les esprits les plus éclairés à l'époque romaine pour dire qu'après la mort, il n'y a rien.
Alors on passe dans une nouvelle partie de l'exposition, des objets déposés dans les tombes, de nombreuses céramiques. Est-ce que tous ces objets ont été retrouvés à Lyon ou viennent de diverses provenances?
Alors pour l'essentiel à Lyon, un certain nombre aussi... quelques-uns en Auvergne, et on a fait en particulier un emprunt de quelques tombes très, très originales qui sont conservées à Clermont-Ferrand, qui ont été trouvées à la fin du siècle dernier, et qui proviennent en fait d'une petite commune au sud-est de Clermont qui s'appelle les Martres de Verre, où au siècle dernier, on a trouvé, à la fin du 19e, plusieurs tombes parfaitement conservées. On voit encore un cercueil en bois d'époque romaine. Dans les tombes, il y avait les cheveux des défunts qui étaient conservés, les vases en bois, les vêtements tissés tricoté en laine. Et en fait, on n'a pas de raison très précise à avancer pour cette incroyable conservation. On a parlé, c'est pas un endroit humide, on a parlé d'émanation de gaz carbonique. Alors, mis à part ce cas particulier, pour l'essentiel, en effet, les objets proviennent de Lyon. Donc, c'est sans doute la partie la plus classique de l'exposition. C'est là où on montre les objets archéologiques restaurés. Et puis c'est un peu, je dirais, la justification de tout ce que le visiteur a vu auparavant. Il a vu des copies d'objets pour toutes les reconstitutions, et là, il voit les originaux.
Le dernier objet, c'est une épitaphe d'une
enfant, en fait, dont on a conservé le masque funéraire. C'est une découverte exceptionnelle de la fin du 19e, où on a retrouvé, donc, dans le quartier de Trion, sur la colline de Fourvière, l'hôtel, avec l'épitaphe d'une fille morte à l'âge de... Voyez, on voit ici... morte à l'âge de 10 ans, 1 mois et 11 jours, puisque la grande caractéristique de ces épitaphes, d'ailleurs ce qui désole beaucoup les archéologues, c'est qu'ils sont non datés. Je crois que sur les 750 ou presque qu'on a au musée, il y en a deux qui sont datés. Mais en revanche, si on ne mettait pas la date, ni de la naissance, ni de la mort, on indique très souvent, et parfois de manière très précise, la durée de la vie. Et pour les enfants, il est fréquent d'indiquer les années, les mois, les jours et parfois les heures. Et l'intérêt de cette tombe, c'est qu'elle était associée en fait au masque funéraire de la défunte qui avait été placé dans sa tombe. Donc les parents avaient fait l'empreinte de son visage et avaient déposé dans la tombe le moule, ce qui permet de faire des tirages positifs et de retrouver donc le visage de cet enfant de 1000 ans.
Oui, il y a des curiosités lyonnaises, comme un monument qui a beaucoup intrigué, c'est pourquoi la tombe des deux amants.
Oui, en fait, on a reconstitué ce monument à l'entrée de l'exposition parce qu'on voulait montrer un monument funéraire de grande ampleur, un mausolée. Et on s'est aperçu que sur la vingtaine de mausolées connus à Lyon, aucun ne rentrait dans notre salle qui fait pourtant 7 mètres de haut. Et on s'est, en quelque sorte, si j'ose dire, rabattu sur un monument un peu particulier qui, lui, était resté en élévation jusqu'au début du 18e, le tombeau dit des deux amants qui se trouvait donc à Vaise. Qui d'ailleurs à l'époque posait déjà problème puisque c'est une sorte de petit édicule soutenu par quatre piliers avec un fronton. Et déjà à cette époque-là, on se demandait si c'était vraiment une tombe dans la mesure où il n'y a pas de texte, pas d'épitaphe, ou si c'était pas plutôt un petit monument à des divinités de carrefour. Il a été malheureusement détruit au 18e parce que tout simplement il gênait la circulation. Donc on a consulté les spécialistes de l'architecture funéraire qui nous ont dit que la forme pouvait tout à fait convenir à un mausolée. Donc on l'a reconstitué puisqu'il a disparu, mais on en connaît un certain nombre de gravures qui permettent d'en donner, disons, les grands traits, quoi, une image grandeur nature.
On arrive, je crois, c'est au terme de l'exposition. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que avec justement cette exposition, les progrès qui ont été faits, l'archéologie funéraire est véritablement une discipline à part entière et intègre des chercheurs de plus en plus nombreux.
L'archéologie, avec les progrès de l'archéologie, bien sûr, ça s'accompagne toujours de spécialisations. Donc je crois que ce que l'archéologie, ce qu'on peut appeler l'archéologie funéraire, souligne tout d'abord, c'est que c'est nécessairement un travail d'équipe. Une fois encore, l'image d'Indiana Jones est complètement battue en brèche aujourd'hui, parce que c'est pas... Bon, l'archéologue sera le chef d'orchestre, mais sans les musiciens, il fait rien. Et je crois que c'est particulièrement vrai pour l'archéologie des tombes, parce qu'en fait, les progrès, ça a été qu'il y a des spécialistes qui étudient les restes humains en laboratoire. Ensuite, la suite logique, c'était que ce spécialiste se déplace sur le terrain pour faire les observations sur le terrain, essayer de reconstituer au mieux comment le défunt était placé. Mais petit à petit, on a bien vu qu'en fait, tous ces objets, que ce soit des dépôts de nourriture animale, végétale, la céramique, les objets, nécessitaient autant de spécialistes. Et donc, je dirais maintenant, il y a toute une gamme, une brochette de spécialistes qui vont intervenir, aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire, pour justement identifier tous ces restes. Et à partir de tout ça, après, bien sûr, à l'archéologue de refaire une synthèse. Donc, l'archéologue va rester le chef d'orchestre, le point central, mais il va bénéficier de collaborations de très nombreux spécialistes. Et je pense que plus on va avancer dans la technique, et plus ces spécialistes vont se multiplier, puisque maintenant, l'étape suivante, ça va être sûrement faire des études ADN à partir des restes des tombes romaines, pour essayer de voir, par exemple, si on a des répartitions familiales au sein d'une nécropole, ou des choses comme ça, qui étaient impensables il y a quelques années.
Je vous remercie, monsieur Luc Savaguerre.
Vingt minutes d'histoire s'achèvent sur cette visite de l'ensemble de l'exposition post-mortem en ce moment au musée de Fourvière à Lyon et jusqu'au 30 mai 2010.
Nous vous recommandons cette exposition à la fois pédagogique et approfondie. Elle donne une approche autant de la mort dans l'Antiquité qu'une vision renouvelée de notre bonne ville de Lyon à travers les rites funéraires. Le catalogue est également disponible à la vente.
Il rassemble en effet des contributions scientifiques à visée pédagogique qui remettent dans une perspective historique et chronologique plus large les thèmes présents dans l'exposition. Parmi les contributeurs se trouve Hugues Savaguerraz, conservateur du musée de Fourvière, qui nous a fait le plus grand plaisir de nous accueillir et de répondre aux questions de Charles Boriot pour 20 minutes d'histoire. Nous le remercions vivement pour sa participation et pour la clarté et la précision de ses réponses.
Nous tenons également à remercier Chloé Huvet, élève dans la section musique de l'ENS, qui a eu la gentillesse de composer ces magnifiques jingles que vous entendez à chaque épisode de 20 minutes d'histoire.
Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de 20 minutes d'histoire, l'émission historique et culturelle de Transistor. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décollage historique avec Jean Moulin et la résistance lyonnaise. On se quitte sur la phrase historique du jour, comme le disait si bien Octave Auguste à sa mort, acta est fabula, c'est la fin.
Mais comme le disait si bien notre Arnold préféré, we'll be back. En attendant, on vous laisse entre les notes de We Were Evergreen, portez-vous bien.
On day one, looking through my pockets for the keys. On day two, there I found them hanging quietly from the door. You said I should get used to situations like these, but I know it's a sign that I'm not ready for this all. Is a trap. It's wearing me out like a name on a dock. On day three, you were standing in the doorway with a smile. On day four, there I lost you as you were running down the hall. I said I just want to be alone for a while, but you know it's all because I always move too slow.
gone in the sun, in the shade. I'm 18 today, what a mess I have made.